France Inter.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une journée spéciale espace aujourd'hui sur France Inter à l'occasion du podcast de Christophe Galfard, Les Explorateurs de l'Univers, qui sort aujourd'hui à écouter à partir de 8 ans. Et puisque les carnets de campagne sont focalisés sur le département de l'Aube cette semaine dans le Grand Est, j'en profite pour vous parler d'une magnifique exposition sur les météorites au musée d'art moderne de Troyes. Météorites entre ciel et terre. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Juliette Galpin.
Bonjour.
Vous êtes la conservatrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Troyes, qui s'est associé au Musée d'Art Moderne pour cette exposition. Alors vous avez une magnifique collection de cailloux célestes dans votre musée, une collection de météorites très riche. Et cette expo, ben, ça vous offre l'occasion de les montrer.
C'est exactement ça. On est troisième collection publique de France de météorites avec plus de 230 pièces du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui. Et en effet, c'était l'occasion rêvée pour nous de pouvoir valoriser toute notre belle collection dans cette exposition. Et d'ailleurs, on présente plus de 80 pièces des collections troyennes.
Qu'est-ce qu'une météorite ?
Alors, c'est de façon assez simple et pratique un caillou spatial qui tombe sur Terre. Voilà, on ne trouve pas de météorite dans l'espace. Hein. Tout ce qui est météorite, au final, c'est un caillou extraterrestre, une roche extraterrestre qui a atterri sur Terre.
Votre territoire a un lien très particulier avec les météorites, puisque c'est à Saint-Aubin, dans l'Aube, qu'on a trouvé une énorme météorite.
Oui, c'était une météorite donc, qui est connue sur le territoire depuis 1968 qui a été reconnue en 2002 en tant que nouvelle météorite. Et en effet, elle apparaîtrait comme étant finalement la météorite la plus grosse tombée en France. Et on a acquis au muséum en 2019 un morceau de près de 150 kilos.
Et vous l'exposez ?
Oui, et on l'expose en exclusivité dans cette exposition.
Qu'est-ce qu'elle a à nous raconter, cette météorite, Juliette Galpin ?
Eh ben, cette météorite-là, elle nous raconte aussi, de façon plus générale, c'est l'histoire en fait des météorites. Ça nous raconte l'histoire de notre système solaire, l'histoire de la création du Soleil, de la formation de nos planètes. Ça peut nous apprendre également des choses sur la formation de la Terre, notre propre planète. Ça peut nous apprendre également pas mal de choses, voilà, sur le tout début du système solaire, avant même que le Soleil n'existe. Donc ça nous apprend vraiment énormément de choses de façon très générale sur l'espace.
Et ce qui est exceptionnel, entre autres, dans votre exposition, c'est qu'on peut toucher la Lune.
Oui, on peut toucher la Lune et même toucher Mars, d'ailleurs, avec des vrais spécimens qui proviennent de la Lune et de Mars dans un module où on, voilà, bien évidemment, à côté de ça, on vous explique un peu comment s'est formée la Lune. On essaye d'expliquer ce que les météorites peuvent nous apprendre aussi sur l'histoire de Mars, notamment. Et en effet, de façon ludique, on a un module qui nous permet de toucher Mars et de toucher la Lune. Des modules, d'ailleurs, qu'on retrouve dans plusieurs sections de l'exposition. Donc là, on peut toucher Mars et la Lune, mais il y a aussi des modules où on peut essayer de découvrir ce qui est météorite et ce qui ne l'est pas. C'est pas si simple. On peut sentir une météorite qui vient de tomber sur Terre aussi, avec une odeur un peu particulière. Donc voilà, pas mal de modules un peu ludiques pour les petits et les grands.
Mais donc, c'est un vrai morceau de Lune qu'on peut toucher ?
Oui, ce sont des vrais morceaux de Lune et de Mars que l'on peut toucher.
Mais ça ne les abîme pas, les échantillons ?
Alors, si, bien évidemment, mais on est sur des échantillons qui ont vraiment cette vocation pédagogique, qui ne font pas partie de collections muséales, patrimoniales, protégées, au sens où on l'entend. Mais on est vraiment sur des collections pédagogiques dont c'est le but premier. Et quoi de mieux que de pouvoir quand même toucher Mars et la Lune pour sensibiliser à l'importance de la science, par exemple. Donc,
Et ça fait de l'effet aux enfants, j'imagine.
Et pas qu'aux enfants. Ça fait de l'effet à tous nos visiteurs, et d'ailleurs y compris les plus grands, qui se rendent peut-être un peu plus compte de ce qu'ils sont en train de toucher.
Et d'ailleurs, elle est accessible à partir de quel âge, cette expo ?
Alors, on la conseille à partir de 8 ans, parce que c'est une exposition scientifique assez charpentée. Il y a pas mal de textes et il y a des concepts également qui sont un peu délicats. Et puis aussi parce que c'est compliqué pour les enfants avant 8 ans de pouvoir vraiment se représenter concrètement un peu ce dont on parle, ce qui se passe dans l'espace, qu'on ne voit pas. On parle d'années-lumière, de millions, de milliards d'années. Donc pour les plus jeunes, c'est peut-être un peu plus délicat. Par contre, bien évidemment, hein, les enfants plus jeunes sont les bienvenus aussi. Ils pourront bénéficier des modules. Il y a un film également dans l'exposition et il y a de toute manière des très belles pièces. Donc bien évidemment, les plus jeunes passeront un très bon moment dans l'exposition aussi.
Vous parliez des odeurs à l'instant. Qu'est-ce que ça sent quand une météorite arrive sur la Terre ?
Alors, ça sent pas forcément très bon. On a plutôt une odeur un peu soufrée. Donc, qui sent, le soufre ne sent en général pas très bon puisqu'on est plutôt sur une odeur un peu type œuf pourri.
Voilà.
Donc, ça ne sent pas très bon, mais on a une odeur assez, assez particulière et caractéristique.
Votre exposition météorite entre ciel et terre fait aussi la part belle à la création artistique, hein, car les météorites inspirent beaucoup les artistes.
Oui, alors on le voit bien, les météorites, de toute manière, c'est quelque chose qui intrigue et qui inspire énormément, et en effet chez les artistes. Et donc, justement, puisqu'on présente cette exposition au sein du Musée d'Art Moderne de Troyes, on a sélectionné une douzaine d'œuvres avec la conservatrice du Musée d'Art Moderne, d'œuvres d'art contemporain, des sculptures, des peintures notamment, pour évoquer cette inspiration de tous ces objets célestes sur les artistes, avec des œuvres qui nous sont prêtées soit par des collectionneurs privés, soit par des fonds régionaux d'art contemporain, qu'on remercie d'ailleurs. Ça donne une autre vision de l'exposition, ça donne une respiration aussi justement un peu artistique, un peu poétique. Ça amène vraiment un autre sujet à cette exposition. Donc on est ravis de présenter aussi cette exposition finalement complémentaire.
Est-ce que vous diriez que les météorites finalement c'est une excellente manière d'accéder à l'astronomie, de s'intéresser à l'espace de manière ludique et accessible ?
Oui, parce que les météorites pour la communauté scientifique sont essentielles, hein. Comme je l'ai dit, ça nous donne des informations sur l'histoire de notre système solaire auquel on n'aurait jamais accès sinon. Et pour le grand public aussi, ça rend concret finalement tout ce qui se passe dans le ciel, et ça nous donne des objets qu'on peut voir, qu'on peut justement toucher aussi des fois. Ça rend vraiment palpable l'impalpable de tout ce qui se passe dans l'espace. Donc c'est vraiment un objet d'approche pour rentrer dans l'astronomie, dans ces sciences de l'espace de manière assez concrète, assez pratique et du coup forcément aussi beaucoup plus facile puisqu'on a quelque chose auquel on peut se raccrocher.
Ça peut faire peur aussi un peu, hein, ces morceaux de métal qui tombent sur Terre.
Oui, ça peut faire peur, bien évidemment aussi parce qu'on pense tous aux dinosaures, hein, qui sont un peu les
victimes,
les météorites. Les victimes collatérales des grosses météorites. Donc on a souvent tendance en effet à en avoir peur. Au final, pas du tout. Et justement, on le présente dans l'exposition. Il faut savoir que c'est quelque chose de très très rare et que en général, les météorites d'ailleurs ont très peu d'impact sur la surface terrestre quand elles tombent. On a des météorites qui continuent de tomber, hein, régulièrement en France, en Europe, dans le monde entier. Et c'est pas pour autant que l'humanité a disparu ou qu'on compte des morts. Et d'ailleurs, on peut préciser qu'il n'y a aucun mort connu aujourd'hui d'une chute de météorite. Personne n'est mort de s'être pris un caillou sur la tête.
Et il en reste sans doute beaucoup à trouver encore à la surface de la Terre.
Oui, sûrement. Il en reste encore énormément. Il y a des endroits sur Terre qui sont d'ailleurs un peu plus météoritifères, si on peut le dire comme ça, qui ont plus de susceptibilité de contenir des météorites, notamment les déserts. Hein. On pense au désert de l'Atacama ou au désert de l'Antarctique, qui sont des lieux assez faciles finalement pour trouver des météorites. On en a trouvé à peu près une centaine en France, ce qui n'est pas rien non plus. Mais on a un terrain en France qui est beaucoup moins favorable pour retrouver des météorites, donc c'est beaucoup plus rare.
Et pourquoi le terrain est moins favorable ?
Alors parce que déjà, on a beau être chauvin, on est quand même sur un petit territoire. Hein. La France n'est qu'une toute petite portion de la surface terrestre, si on le compare justement à l'Antarctique ou au désert de l'Atacama. Donc forcément, ça limite aussi la surface. Et puis, on est sur un terrain qui est forestier, qui est agricole, donc pas forcément favorable non plus à retrouver des météorites. Un terrain qui a aussi été beaucoup urbanisé, travaillé justement de la main de l'homme. Donc, on a déjà pas mal de météorites qui ont été sorties de terre, notamment dans le cadre de travaux agricoles. Et puis, on a aussi un territoire qui est sujet à de nombreuses modifications climatiques au fur et à mesure des temps. Hein. On ne parle pas là de météorologie, mais vraiment sur des temps très, très longs. Et avec des alternances de chaud, de froid, de très chaud, de très humide. Et donc, tout cela n'est pas très favorable à la conservation des météorites.
Cette exposition au Musée d'Art Moderne de Troyes, c'est aussi l'occasion de proposer des événements, des animations en tout genre pour attirer le plus de public possible. Quelques exemples à donner peut-être ?
Oui, alors de façon assez simple, on a tous les premiers dimanches du mois qui, je le rappelle, du coup, sont gratuits, des médiations flash dans l'exposition avec des médiateurs qui sont présents pour vous accompagner dans cette visite et puis qui vont faire des petits focus. Alors ça peut être sur ce que c'est qu'un cratère, ce que c'est qu'une météorite, parler d'art contemporain, voilà, c'est assez variable et tout cela change tous les dimanches. Et puis on a aussi des événementiels en général sur des week-ends qui d'ailleurs sont aussi également gratuits. Et notamment là du 6 au 8 juin, on a les rendez-vous au jardin, événement national, où vous allez pouvoir venir observer la Lune avec l'association astronomico-boise. On a également autour du 12 août, qui est connu puisque c'est la nuit des Perséides, ce qu'on a appelé un événement ciel, je vous laisserai comprendre le jeu de mots, où on va également pouvoir découvrir à la fois les météorites et tout ce qui se passe dans le ciel de façon beaucoup plus ludique, avec un conte à la belle étoile, plutôt pour les enfants, mais aussi des observations du soleil, des opérations où on va pouvoir amener nos propres cailloux et se les faire déterminer par des géologues pour savoir si ce sont des météorites ou pas, et puis si ce n'est pas le cas, pour savoir ce que c'est comme cailloux terrestres. Donc voilà, pas mal de petits événements. On a également des conférences, des ateliers de découverte pendant les vacances. Donc voilà, pour les petits, pour les grands, pour les gens qui n'y connaissent rien, pour les gens qui s'y connaissent un peu, qui veulent juste observer les étoiles, il y en a pour tous les goûts. Et en effet, tout ça, ça ponctue l'exposition jusqu'à la fin, au mois d'août.
Est-ce que vous sauriez dire ce qui vous fascine, vous, à titre personnel, dans les météorites, Julienne Galpin ?
Alors, je pense que c'est un peu finalement là-dessus, je suis un peu comme tout le monde. Ce qui me fascine, c'est le fait d'avoir, alors moi je peux les toucher du coup peut-être un peu plus facilement, mais d'avoir dans mes mains des météorites et des objets qui viennent de l'espace, qui nous racontent un peu toute l'histoire de l'espace et qui nous permettent de nous rendre compte que on est tout petit face à ça, qu'on tient dans la main quelque chose qui date du tout début du système solaire et qui vient de l'autre bout aussi du système solaire, entre d'autres planètes, et que nous, finalement, on est petits humains sur une toute petite planète Terre, et qu'on partage cette histoire et qu'on partage cette origine. Et du coup, c'est assez perturbant, finalement, d'un côté, mais aussi assez passionnant de se rendre compte de tout ce que ça a à nous apprendre sur nous-mêmes, finalement. Donc voilà, on est pris de passion, je pense, dès qu'on commence à creuser un peu la question des météorites.
Merci beaucoup Juliette Galpin, conservatrice du Muséum d'Histoire Naturelle de Troyes. Et l'expo Météorite est donc à voir au Musée d'Art Moderne de Troyes jusqu'au 31 août. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup, bonne journée à vous et à très vite.
Un coup d'œil à la boîte mail des carnets de campagne. Brice, un auditeur qui vit dans l'Aube, nous écrit car en tant que président de Folcafon, association qui œuvre à promouvoir les musiques et danses trad actuelles, écrit-il. Toute l'année, nous animons des ateliers de danse et de musique. Nous organisons également tous les ans un bal de printemps en partenariat avec le Conservatoire de Troyes afin de donner goût pour cette esthétique aux jeunes générations. Tous les 2-3 ans, c'est élastique depuis le Covid, nous organisons la nuit Trad actuelle et la 11e édition aura lieu cette année, en novembre 2025. La nuit Trad actuelle a pour but de réunir les amoureux et amoureuses de la danse trad. Elle s'étale sur 3 jours, 2 soirs de bal et un concert. Folcafon, ça s'écrit en un seul mot, F-O-L-K-A-F-O-N, association basée à Troyes dans l'Aube. Et puis je voulais remercier Joëlle qui nous a écrit parce qu'elle a été très touchée par l'émission de lundi, pendant laquelle j'ai eu le plaisir de remettre un prix à un documentaire. Le village qui voulait replanter des arbres, à voir sur le site de France Télévisions. J'ai regardé le film, nous écrit cette auditrice, et je pense qu'il peut faire réfléchir tout le monde sur les équilibres de la nature, sur nos impacts, sur les erreurs passées et actuelles. C'est vraiment à faire connaître et à diffuser, insiste Joël. J'espère que ça fera bouger les consciences pour éviter de continuer à détruire les haies, celles des champs, mais aussi celles des bords de route, ainsi que les arbres isolés qui gênent des projets d'aménagement. Le village qui voulait replanter des arbres, documentaire de Brigitte Chevet, est à voir gratuitement sur la plateforme France.tv. Merci à toute l'équipe des carnets de campagne, Sophie Hoffmann et Lila Rapoport qui préparent cette émission, ainsi qu'à Loïs Moreau pour la technique. Je vous rappelle que les carnets de campagne vous donnent rendez-vous dans les Vosges, mardi, enregistrement de plusieurs émissions en public dans le magnifique Théâtre du Peuple à Bussan, un théâtre dont l'arrière-scène s'ouvre sur l'extérieur et qui offre la forêt comme décor. Je vous attends mardi 27 mai à 16h et à 18h à Bussan. Et Nicolas Stoufflet sera là aussi pour des enregistrements du Jeu des 1000 euros.